Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest et les élections au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari et son principal rival Atiku Abubakar ont donné lundi le coup d'envoi de la campagne présidentielle à 3 mois du scrutin prévu le 16 février 2019. Le point avec Nani Talani.
Les électeurs nigérians devront choisir leur président parmi 78 candidats, mais le véritable duel va opposer le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de file de l'opposition Atiku Abubakar. Il y a quelques mois, M. Buhari, 75 ans, était quasiment assuré d'une victoire face à une opposition divisée, mais son parti a subi des revers et des défections en série. Atiku Abubakar, ancien vice-président âgé de 75 ans, est un homme politique bien connu. Sa réputation d'homme très riche a été ternie par des accusations de corruption ou des scandales liés à des conflits d'intérêts, mais ses détracteurs n'ont jamais réussi à le faire comparaître en justice. Il a toutefois réussi à rassembler des déçus de la présidence de M. Buhari, dont l'image a souffert du ralentissement de l'économie, tout comme de graves problèmes sécuritaires. M. Abubakar entend miser sur son succès en tant qu'homme d'affaires pour remettre le Nigeria au travail, alors que M. Buhari a placé la lutte contre la corruption au cœur de son discours électoral.
Politique au Togo, le Mouvement patriotique pour la paix et le développement, MPPD, une formation de l'opposition, s'apprête à participer aux élections législatives annoncées pour le 20 décembre de cette année. Contrairement à la coalition des 14 partis de l'opposition qui, elle, a déjà annoncé son intention de boycotter le scrutin, le MPPD fait appel à, et je cite, « tous les patriotes en vue de réaliser ensemble l'alternance de manière pacifique au Togo ». Fin de citation. C'est du moins ce qui ressort de l'interview accordée à Irénée Herman Ongbo par le président du MPPD, Agbeyone Kodjo.
Je vous rappelle que l'opposition togolaise est plurielle et que moi je sors d'une convention nationale le 20 octobre 2018 et la convention, par une résolution, demande donc de prendre part aux prochaines élections et de lutter pour que les conditions de transparence et d'impartialité donc soient réunies. De ce fait, nous nous déposerons, comme la loi dont le recommande, nos dossiers pour prendre part à ces élections, tout en continuant de négocier avec le pouvoir pour que les conditions soient les meilleures possibles pour permettre donc le renouvellement de l'Assemblée nationale dont la législature est arrivée à terme.
Que pensez-vous alors de la coalition des 14 partis de l'opposition avec à leur tête Jean-Pierre Fabre qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections libres et transparentes?
Nous estimons que à partir du moment où les conditions, notamment donc la parité de la CENI, a été acquise, il faut que donc cette opposition des 14 prenne sa place au sein de la CENI et demande à voir le chronogramme et également examiner le résultat donc du recensement. Et à partir de ce moment, s'il considère là-bas, donc au niveau de la CENI, qu'il y a des manquements. Si les manquements de tout temps sont fondés, nous sommes prêts à les appuyer et dicter de nouvelles conditions avant de prendre part aux travaux de la CENI, sans participer à une logique du moins qui n'est pas de moins la nôtre.
À vous entendre, l'opposition togolaise est divisée. N'est-ce pas une fenêtre laissée ouverte pour une éventuelle victoire du RPT?
Nous avons toujours prôné, souhaité, en tout cas l'union de l'ensemble de l'opposition. Nous avons fait des expériences donc à la matière et ça donne des résultats probants. Il se trouve que pour les dernières négociations politiques, l'opposition radicale a estimé que ceux qui n'étaient pas dans la rue avec elle n'ont pas droit de prendre part au dialogue. Je crois que c'est là où le schisme s'est créé parce que nous avons plus à la synergie des talents, mais on ne peut pas dire que certains sont plus opposants que d'autres. Parce que, moi je vous rappelle que c'est depuis 2002 que nous avons appelé du Moussa à faire des réformes. Mais au moment où nous appelions à faire des réformes, nous ne marchions pas dans la rue. Nous étions aux affaires, nous voyons les dangers arriver. Donc je pense que le fait de boycotter une élection aussi, c'est un choix. De toute façon démocratique, c'est une posture du monde démocratique. Mais je rappelle que ce contre quoi de toute façon il lutte aujourd'hui, c'est du Moussa, comment je disais, par le boycott des législatives de 2002, auquel ils ont appelé donc les populations à ne pas prendre part.
Agbeyome Kodjo, président du MPPD, joint à Lomé au Togo par Irénée Herman Ongbo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection RDC maintenant. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du FCC, le Front commun pour le Congo, qui est la famille politique du président sortant Joseph Kabila, a présenté lundi le plan de gouvernance qu'il compte mettre en œuvre s'il est élu le 23 décembre à la tête du pays. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
Après avoir salué le bilan du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, Emmanuel Ramazani Shadary a décliné son programme autour de quatre axes. Le renforcement de l'autorité de l'État, la diversification de l'économie et garantie de l'emploi, la lutte contre la pauvreté et garantie de l'accès aux services publics et enfin la démonstration de l'importance géostratégique de la RDC. Il a promis lundi 86 milliards de dollars pour le développement de son pays sur 5 ans. Au chapitre international, M. Ramazani Shadary, 58 ans, ex-ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il voulait sensibiliser la communauté internationale sur le terrorisme qui a élu domicile dans le nord-est du pays. Des tueries attribuées au groupe armé ADF dans la région de Beni compliquent la riposte contre le virus Ebola et pourraient même menacer cette élection qui a déjà été deux fois reportée. La commission électorale a retenu 21 candidatures pour la présidentielle du 23 décembre. Les grands ténors de l'opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat commun pour ce scrutin à un tour. La campagne commence dans deux jours, le 22 novembre.
Élection à Madagascar, l'ancien chef de l'État malgache Andre Rajoel, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre, dénonce ce qu'il appelle des manipulations des résultats officiels. L'ex-président a exhorté la justice malgache à trancher dans ce domaine. Morgan Guiriek.
On a gonflé le nombre des inscrits et distribué aux autres candidats les voix obtenues par Andre Rajoel, a-t-il déclaré hier dans la capitale malgache. Il a annoncé sa décision de saisir la Haute Cour constitutionnelle afin qu'elle tranche sur ses problèmes, promettant une victoire à ses partisans rassemblés devant son quartier général. Son rival, Marc Ravalomanan, n'a pas encore annoncé s'il allait saisir la plus haute juridiction du pays. Il avait lui aussi dénoncé des défaillances lors du premier tour. Andre Rajoel a décroché 39,19% des suffrages devant l'ancien président Marc Ravalomanan, 35,29%, selon les résultats publiés samedi par la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats ont jusqu'à mardi pour déposer leur recours. La HCC doit proclamer d'ici fin novembre les résultats définitifs après examen des requêtes des candidats. Un second tour devra donc départager les deux frères ennemis le 19 décembre.
Conflit au Yémen, le calme est revenu ce mardi dans Hodeïda, la grande ville portuaire contrôlée par les rebelles houthis dans l'ouest du pays, après de violents combats nocturnes. Ces affrontements, les plus violents depuis la désescalade du 14 novembre, se sont concentrés dans l'est de la localité, où les rebelles ont procédé à des tirs d'artillerie, déclenchant une riposte des forces pro-gouvernementales, selon des responsables des forces loyalistes. Les accrochages à Hodeïda, par où transitent 75% des aides humanitaires ont eu lieu en dépit des positions exprimées lundi par le pouvoir et les rebelles en faveur des efforts de paix de l'ONU. Les rebelles houthis et les forces loyalistes sont en effet favorables à ces efforts de paix qui ouvrent la voie à de nouvelles négociations pour un règlement politique de la guerre qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. Jean-Roger Bion.
Oui, la diplomatie ne ménage aucun effort alors que sur le terrain ont lieu les combats les plus violents dans la ville de Hodeïda. L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a proposé la tenue de pourparlers à Stockholm devant le Conseil de sécurité de l'ONU avec la clé un projet de résolution porté par la Grande-Bretagne demandant une trêve dans la ville et le passage sans obstacle de l'aide humanitaire. M. Griffiths a dit qu'il tablait sur un démarrage de négociations dans quelques semaines et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a indiqué qu'elle pourrait avoir lieu début décembre. Le gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a déclaré qu'il enverrait une délégation à Stockholm. Avant lui, le chef rebelle Mohamed Ali Al-Houthi avait exhorté ses partisans à mettre fin aux tirs de missiles et drones et proposé de cesser toutes les opérations militaires sur tous les fronts pour montrer les bonnes intentions des rebelles. M. Griffiths a salué l'annonce rebelle et souhaité que toutes les parties poursuivent leurs efforts de retenue pour créer un environnement propice à la tenue de consultations.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.